Donc ce soir, nous accueillons David Le Breton, professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg, membre de l'Institut universitaire de France et du laboratoire URA, CNRS, Culture et Société en Europe. Mais je crois que vous m'avez dit que le nom avait changé, je n'ai pas eu le temps de le noter. Bon, son parcours singulier l'a amené à se spécialiser dans les représentations et les mises en jeu du corps humain, saisi comme une construction sociale et culturelle. Ce corps, que David Le Breton qualifie de matière de symbole, objet de représentation et d'imaginaire, il l'explore sans relâche depuis maintenant une trentaine d'années en interrogeant l'empreinte de la société sur et même dans la chair des individus et comment ceux-ci, au sein d'un contexte culturel donné, parviennent à générer du sens par la peau en cherchant des réponses à leur existence. Citons juste quelques-unes de ses recherches sur la perméabilité au monde grâce à la vue, à l'odorat, au goût, l'ouïe, le toucher dans un ouvrage qui s'appelle « La saveur du monde, une anthropologie des sens » en 2006. Sur les échanges affectifs dans lesquels l'humain est sans cesse immergé, les passions ordinaires, anthropologie des émotions en 2004. Sur l'histoire du corps et les inquiétudes que génère son devenir dans le cyberespace avec Anthropologie du corps et modernité et ses rééditions depuis 90, ainsi que l'adieu au corps en 99. Un corps donc que David Le Breton questionne sans cesse, y compris peut-être même surtout dans ses défaillances, lorsqu'il souffre avec Anthropologie de la douleur en 2006 ou perd son intégrité, corps abîmé 2013. Ce corps, il le questionne également lorsqu'il est engagé dans des conduites à risque, notamment au moment de l'adolescence, des jeux de mort aux jeux de vivre en 2003 et la même année, la peau et la trace sur les blessures de soi. Mais David Le Breton s'attache aussi à révéler ces moments de passage où l'individu reprend les billes dans sa main pour les relancer afin de vivre plus, mieux ou tout simplement vivre encore. Marché éloge des chemins de la lenteur en 2012, hommage à la pause avec du silence en 2015. Et c'est justement de sursaut et donc d'espoir qu'il sera vraisemblablement question ce soir avec cette exploration de ce qu'on pourrait appeler une esquive à laquelle se prête David Le Breton dans Disparaître de soi, une tentation contemporaine. Bonne soirée à tous.
Merci Anne, merci Gaëlle, merci à chacune et chacun d'entre vous d'être venu m'écouter ce soir. Je suis très ému par votre accueil, par votre nombre et du coup ça me déconcerte un peu sur la manière dont je vais mener mon propos. Donc Anne a évoqué un certain nombre de mes livres en citant plutôt des dates de réédition d'ailleurs que des... en faisant parfois un mélange entre l'édition, la réédition, etc. Donc vous voyez, j'ai beaucoup travaillé sur le corps, sur les conduites à risque des jeunes, sur le silence, sur la douleur, sur la marche également. Donc il y a une unité profonde dans mon travail, hein, même si au premier regard on pourrait penser que je suis un chercheur très éclaté, il y a une très profonde unité biographique d'une part, et puis il y a un enchevêtrement de toute façon de tous ces thèmes que je traite et qui ne cessent de se croiser, de se recroiser. Et le thème de la disparition de soi, en fait, qui pourrait paraître un peu insolite et une espèce de rupture de mon travail, en fait, s'inscrit également dans une très longue continuité, à la fois biographique pour une part, mais la première fois que j'ai avancé la notion de blancheur, c'était dans l'un de mes premiers livres, c'était d'ailleurs aussi ma rencontre avec Anne-Marie Métellier, c'était mon livre « Passion du risque », qu'Anne-Marie Métellier vient de rééditer en poche il y a 2-3 ans. Et dans ce livre, j'avais évoqué la notion de blancheur pour parler des jeunes en errance, qui était déjà présent. On était au début des années 90, mais il y avait déjà dans nos villes énormément d'adolescents ou de jeunes hommes ou de jeunes femmes qui vivaient déjà dans les interstices du lien social, qui s'installaient dans les lieux de passage, c'est-à-dire là où nul d'entre nous ne demeure. Et j'avais évoqué déjà intuitivement la notion de blancheur en disant que ce sont des jeunes hommes, des jeunes femmes qui se perdent dans la blancheur en quête évidemment de signification, de valeur pour pouvoir exister. Et puis peut-être, après tout, puisque vous êtes venus si nombreux, je peux vous faire une petite confidence, c'est que la disparition de soi a été et demeure sans doute pour moi aussi une très forte tentation, puisque quand j'étais plus jeune, pour avoir traversé moi-même les conduites à risque, m'être longuement interrogé sur le sens de mon existence et sur la nécessité ou pas de poursuivre l'aventure, en quelque sorte, j'étais parti au Brésil, donc j'étais tout jeune, je suis parti au Brésil avec mon sac à dos, je n'avais absolument pas aucun moyen. C'était une époque d'ailleurs où il fallait 3 jours pour arriver au Brésil, ou en Amérique latine, ou partout. C'était une époque où les trajets en avion n'étaient pas si faciles. Et donc je partais au Brésil, c'était en pleine dictature militaire, j'avais 2 grandes tentations. Je voulais soit participer au combat contre les militaires, avec une naïveté folle comme vous pouvez l'imaginer, surtout moi qui ne ferais pas de mal à une mouche. Et puis d'autre part, c'était la tentation de la disparition, c'était la tentation de l'Amazonie, avec le fantasme de disparaître là-bas et de réinventer quelque chose, mais j'avais ce fantasme en tous les cas. Et puis, bon, comme vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais bon, je suis rentré, j'ai pris la décision de finir ma thèse de sociologie, et puis plutôt d'être un sociologue engagé dans son époque, pour pointer, comme Anne l'a pointé tout à l'heure, oui, les zones de défaillance, les zones de rupture, les zones de souffrance, etc. Et donc j'ai continué, mais donc pas, comme je dis souvent, pas en militant, dans le sens où pour moi militer c'est toujours limiter, hein. Je joue avec les mots, mais il est évident que tout militantisme est forcément une manière de restreindre le regard sur le monde, et je pense que l'anthropologie est plutôt une manière d'illimiter le monde, de rappeler qu'il y a dans toute situation des milliers de manières différentes de l'interpréter, ou d'échapper également aux difficultés qui sont les nôtres. Voilà, et c'est donc la vision du monde qui anime absolument tous mes livres et toutes mes recherches, et même quand je travaille sur des sujets extrêmement durs, douloureux, je montre toujours aussi les manières de s'en échapper, de trouver du sens. Je crois que la dimension du parcours initiatique, en quelque sorte, est vraiment au cœur de tout mon travail, parce que je l'ai sans doute un peu vécu moi-même. Mais bon, pas de façon explicite, il est implicitement dans tout mon travail, au sens où quand je travaille sur les conduites à risque, sur la douleur chronique ou des sujets comme ça, je termine toujours les livres sur des ouvertures qui montrent qu'il y a des issues pour au moins amortir sa douleur, voire établir un compromis avec elle, et puis pour les jeunes générations et les conduites à risque, qu'il y a un moment, un jour ou l'autre, où on trouve un sens à sa vie et où on s'intègre dans le monde. Voilà. Alors, j'ai un petit problème de micro. Mais bon, je suis obligé de parler avec un micro. J'ai aussi écrit un livre sur la voix, d'ailleurs. Si je n'avais jamais eu de problème avec ma voix, je n'aurais jamais écrit sur la voix. Mais ça m'a permis de mieux comprendre l'importance de la voix dans le lien social. Mais donc j'ai toujours besoin d'une prothèse pour que ma voix porte un peu. Voilà. Et donc dans ce dernier ouvrage, Disparaître de soi, j'avais un certain nombre d'images en tête, et je vais vous les donner, parce que je crois qu'elles sont parlantes pour chacun de nous. J'ai connu quand j'étais très très jeune, et je connais encore aujourd'hui un homme qui a choisi d'une certaine manière la disparition, protégé par sa famille, et qui continue à vivre depuis une éternité, d'abord hébergé par sa famille, et puis ensuite dans un hôpital psychiatrique, et puis ensuite dans un CHU. Un homme qui pour moi n'est absolument pas fou, mais un homme qui se sentait trop meurtri par les relations sociales et qui a choisi de disparaître du lien, donc de disparaître de soi d'une certaine manière. Et je crois que dans toutes les familles, il y a une personne comme ça qui est un peu le protégé et dont on sait qu'elle est très vulnérable dans les relations avec les autres. Voilà. Parfois d'ailleurs, cette vulnérabilité arrive avec le vieillissement, où un certain nombre d'hommes ou de femmes deviennent de plus en plus distants, de plus en plus évanescents. Je pense à Paul Auster, par exemple, qui a écrit un très beau livre sur son père et qui dit « Mon père n'a jamais été très très présent, mais plus il vieillissait et moins il était là ». Je crois que ce sont des images qu'on a tous également plus ou moins en tête. J'avais aussi en tête le fait que parfois on retrouve dans nos, en France, on retrouve des hommes ou des femmes qui sont morts depuis des mois et dont personne n'a repéré qu'on ne les voyait plus. Donc c'est simplement l'odeur de la décomposition qui amène leurs voisins à prendre conscience qu'effectivement ils n'ont pas vu leurs voisins depuis très très longtemps. Et voilà donc des hommes ou des femmes qui s'étaient mis à l'écart en quelque sorte aussi, dans une sorte de grève du lien social, pour se protéger, pour d'autres raisons. Et puis également la question de la disparition de soi, pour moi elle est au cœur des conduites à risque des jeunes générations. Alors il y a plusieurs grandes figures anthropologiques dans les conduites à risque. Je vous l'ai dit très vite, il y a l'ordalie qui est un jeu symbolique avec la mort. On demande à la mort, à travers une mise à l'épreuve, une légitimité sur une existence qui n'a pas été validée en quelque sorte par le lien social. Le jeune continue à sentir, il continue à s'éprouver comme nul, insignifiant, se demande quelle est sa place dans le monde, parce que le lien social n'a pas réussi jusqu'à présent à le raccrocher, à le convaincre de sa valeur. Donc il demande à la mort, en se mettant dans une situation de danger, il demande à la mort une sorte de reconnaissance. Et le fait de survivre octroie toujours une sorte de puissance personnelle, le sentiment finalement de ne pas être aussi nul que ça et d'avoir une légitimité. Donc toutes les conduites à risque de nos jeunes relèvent de l'ordalie. Donc ordalie, c'est un vieux mot français qui veut dire jugement de Dieu. Ce sont des vieux rituels judiciaires qui existaient dans la France médiévale, par exemple, qui existaient dans la Grèce antique, qui ont longtemps existé dans l'Afrique traditionnelle. Donc quand la société est impuissante à juger de la culpabilité ou de l'innocence d'une personne, on s'en remet au Dieu. Donc c'est l'interrogation des augures, du sort, où ça passe, où ça casse, mais on considère dans ces sociétés que le sort ne peut pas aller à l'encontre d'un innocent, d'une certaine manière. C'est un peu le principe de l'ordalie, et donc on retrouve de manière complètement laïque chez nos jeunes aujourd'hui. Et puis une autre grande figure anthropologique, c'est celle du sacrifice, c'est-à-dire accepter de perdre une part de soi pour pouvoir continuer à vivre, c'est-à-dire payer en fait le prix de son existence. Donc je sais pas, l'anorexique pourrait vivre tranquillement, manger paisiblement, etc. Elle choisit de lutter passionnément, désespérément contre sa faim. Le toxicomane pourrait vivre également tranquillement, mais il va choisir de mettre toute son existence sous l'égide de la recherche de son produit, etc. Toutes les conduites à risque de nos jeunes imposent un sacrifice, imposent une perte donc aux jeunes, mais c'est pour sauver l'essentiel, si vous voulez. On perd une part de soi pour sauver sa vie. On donne une partie pour sauver le tout. Voilà. Donc ça, c'est dans toutes les conduites à risque qu'on retrouve et dans les scarifications, se faire mal pour avoir moins mal, c'est absolument archétypique presque. Donc deux grandes figures, c'est l'ordalie, le sacrifice, et la troisième grande figure, c'est la blancheur, c'est la disparition de soi, qui est également au cœur de toutes les conduites à risque. Alors je vous ai évoqué tout à l'heure l'errance sur les routes. Ce sont des jeunes qui ont souvent changé de nom. Ils sont dans une rupture de filiation, dans une rupture de généalogie, donc ils ont rompu avec leurs parents, leurs beaux-parents, qui souvent d'ailleurs les ont foutus dehors carrément. Et donc ils se reconstruisent ailleurs avec un pseudonyme, donc ils se rebaptisent autrement, mais ils vont vivre donc dans les interstices, dans l'entre-deux, là où je disais tout à l'heure que personne ne s'installe, c'est-à-dire les lieux de passage comme les gares, les squats, les rues, les caves, etc. Eux, ils vont faire leur établissement en quelque sorte. Mais leur famille ignore complètement où ils sont passés, s'ils sont encore vivants ou pas. Voilà, on peut dire d'ailleurs, j'ai écrit aussi d'ailleurs un roman policier là-dessus il y a quelques années, Mort sur la route, avec ces jeunes en errance, à la limite on peut en faire n'importe quoi, parce que personne ne saura jamais qu'ils ont disparu. Vous voyez, c'est une population d'une incroyable vulnérabilité, que j'ai beaucoup connu quand j'étais au Brésil, puisqu'il y avait énormément d'enfants dans les rues à l'époque, et c'était une image qui me terrifiait quand je voyais même des tout petits gamins. Vous aviez des petites bandes de jeunes qui allaient de 3-4 ans à 16, 17, 18 ans, bon, avec tout ce que vous pouvez imaginer d'ailleurs qui pouvait se passer déjà à l'intérieur de ces bandes, mais qui étaient liquidés par, ces jeunes étaient liquidés par les commerçants, par les escadrons de la mort qui étaient des policiers, mais vous pouvez aussi imaginer tout ce que la criminalité pouvait en faire également. Mais on pourrait dire que dans nos sociétés occidentales aujourd'hui, on a un peu les mêmes choses avec ces enfants, ces adolescents des rues ou ces jeunes hommes et ces jeunes femmes des rues qui ont disparu de leur ancienne identité en tous les cas. Ils n'ont plus vraiment d'état civil. D'ailleurs, ils n'ont souvent plus de papiers. Certains ont encore leurs papiers, mais pas tous en tous les cas. Donc, l'errance sur la route, on retrouve également cette disparition de soi dans l'addiction au net, le fait de passer 15-20 heures tous les jours devant des jeux vidéo, ces manières de disparaître dans un monde virtuel qui connaît évidemment sa manière la plus puissante en quelque sorte au Japon avec les hikikomori, qui sont des jeunes qui vont s'enfermer dans leur chambre pendant des années, parfois pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Leurs parents ne vont plus les voir et vont déposer des plateaux repas à la porte de leur chambre. Ce sont des jeunes qui sont en lien avec le monde entier via les réseaux sociaux, mais qui sont dans le refus radical du corps à corps, du visage à visage, de la relation. Voilà. Donc, en fait, on pourrait dire que ce sont des autistes sociaux. Ils ont fait, la technologie est devenue leur ermitage, en quelque sorte, qui les protège de relations qui seraient trop meurtrissantes pour eux. Donc les hikikomori sont une manière spectaculaire de disparaître tout en étant là dans nos sociétés contemporaines. Alors, autre figure de la disparition de soi à l'adolescence, c'est la recherche du coma, boire pour le coma. Pendant longtemps, dans nos sociétés, l'alcoolisation était liée à la recherche de l'ivresse. Ça faisait partie d'ailleurs des rites de virilité. Un homme se devait d'une certaine manière de montrer que même après avoir bien bu, il tenait toujours debout. Oui, cette métaphore sexuelle de la verticalité, etc. Et le paradoxe aujourd'hui, c'est que nous avons affaire à des jeunes de plus en plus jeunes qui boivent pour le coma. Ils ne boivent absolument pas pour l'euphorie de la fête ou autre, ils boivent pour tomber évanoui et se réveiller quelques heures plus tard. Donc cette quête de coma, vous voyez, est aussi extrêmement intéressante, douloureuse, mais intéressante à analyser sur un plan anthropologique. Comment peut-on boire pour ça ? Et on retrouve une recherche également de syncope, mais plus rapide, ça dure quelques secondes, dans les jeux d'étranglement qui sont énormément diffusés dans nos sociétés aujourd'hui, qui sont, je vous le rappelle d'ailleurs, extrêmement dangereux, hein, mais qui sont quand même très pratiqués, où des jeunes vont provoquer l'évanouissement à travers des jeux d'étranglement pour simplement quelques secondes, pour que pendant quelques secondes, ça ne leur prenne plus la tête, comme ils le disent parfois. On retrouve aussi la disparition de soi à l'adolescence dans les sectes, mais de manière plus tragique, dans le djihadisme. Dans les sectes, on se démet de soi au profit du gourou, hein, c'est-à-dire c'est le gourou qui va complètement vous dire ce qu'il faut faire à tout instant. Dans le djihadisme, c'est Dieu, ou plutôt les porte-paroles autoproclamées de Dieu, qui vont vous dire exactement qu'il faut aller massacrer, dans quel contexte, comment, pourquoi égorger celui-là, etc., etc. Donc nous avons aussi affaire à des jeunes qui se sont complètement démis de leur personne pour flotter en quelque sorte dans les décisions que prennent pour eux les porte-paroles autoproclamées de Dieu. Je crois que j'oublie, et puis on pourrait analyser la transanorexie de la même manière comme une forme de disparition, une manière de disparaître dans la légèreté, etc. Ces images de papillons, d'odeurs, de devenir un papillon, devenir une odeur, devenir un nuage, etc. qui poursuit tellement les anorexiques. La toxicomanie, c'est évidemment clair, hein, c'est la recherche d'un contre-monde à travers l'invention d'un contre-corps grâce au recours à toute une série de produits. Alors j'en oublie peut-être, mais vous voyez comment, à l'intérieur des conduites à risque, on est aussi dans cette volonté de se défaire de soi et de se défaire d'une identité qui est trop écrasante. Et c'était évidemment l'autre point de départ de mon livre. Et puis l'autre, mais je vais sans doute y revenir plus longuement tout à l'heure, c'est que moi qui suis un très grand cinéphile, qui regarde au moins 4-5 films par semaine, hein, mais du cinéma, cinéma classique. Hein. Je suis assez peu adepte, pas du tout adepte des blockbusters contemporains, et plus du cinéma indépendant, mais en tous les cas, mon cinéma, c'est plutôt celui de l'histoire du cinéma, d'une certaine manière. Et donc, dans le cinéma d'aujourd'hui, je vais vous en citer tout à l'heure, vous avez énormément de grands cinéastes qui sont dans cette ligne-là d'exploration de la disparition de soi. Et dans la littérature contemporaine, tout à l'heure, j'ai évoqué Paul Auster, hein, tous les romans de Paul Auster mettent en scène des jeunes Américains qui sont écrasés par le fardeau de leur identité, qui changent d'identité, qui disparaissent, qui vont se reconstruire ailleurs. Et même dans la trilogie new-yorkaise, rappelez-vous que ces personnages n'ont même pas de nom. Ils s'appellent bleu, blanc, etc., bleu, rouge. Bon. Donc je vais rapidement tout à l'heure, en quelques mots, vous citer toute une série de ces écrivains. Voilà. Et si je les cite, c'est aussi parce que si nous lisons ces hommes ou ces femmes, si nous regardons ces films, qui sont parfois des films très exigeants, c'est bien parce que quelque part, ils répondent aux aspirations qui sont les nôtres. Nous nous reconnaissons profondément dans ces personnages, même si parfois ils semblent manquer d'épaisseur psychologique et pour cause, mais on les reconnaît comme dans un miroir d'une certaine manière, et ils vont nous fasciner pendant une heure, deux heures, trois heures, etc. Mais je m'aperçois que j'ai oublié de vous définir vraiment ce que j'entends par disparition de soi. Donc c'est pour ça que je marque un petit recul dans mon propos. Donc j'appelle disparaître de soi le fait de se défaire des contraintes de l'identité. Les contraintes de l'identité, c'est de devoir toujours répondre à notre identité, aux impératifs sociaux, familiaux, professionnels, individuels, etc., qui sont liés à notre personne. Hein, c'est-à-dire que il n'y a pas de moi sans l'autre, hein, d'une certaine manière, donc on est toujours liés. Mais nous vivons dans une société où les technologies ne cessent de nous traquer d'une certaine manière. Hein, je regrette pour ma part, moi qui suis un grand voyageur aussi, le temps où quand on partait à l'étranger, on envoyait des lettres qui arrivaient une semaine après, deux semaines après, et puis on n'avait absolument aucune nouvelle de son milieu professionnel ou familial et autres, et puis c'était très très bien, on avait le bonheur de se retrouver en ayant des milliers de choses à se dire, alors que maintenant on s'envoie des SMS toutes les heures, on a le portable sonne absolument sans arrêt, et même quand on est dans les plus belles villes du monde, on est contraint ou la plupart d'entre nous de passer une heure tous les jours pour répondre à ces mails, parce que si on a la bêtise de se dire pendant une semaine je réponds pas à mes mails, vous en avez des centaines à gérer à votre retour, et vous dites que c'est encore plus infernal, que vaut mieux payer le prix, comme je disais tout à l'heure, faire le sacrifice d'une heure tous les jours plutôt que d'avoir deux jours et puis d'avoir tout un tas de gens effrayés de ce que vous ne leur ayez pas répondu. Bon. Voilà, donc les technologies d'aujourd'hui nous traquent d'une certaine manière, nous cherchent dans le fin fond des déserts ou des jungles ou au bout du monde pour nous rappeler aux exigences qui sont propres à notre identité, à notre identité sociale, culturelle, etc. Et donc très très souvent, nous nous sentons écrasés par toutes ces responsabilités que nous portons les uns et les autres, et on a envie de disparaître, et on le dit d'ailleurs, hein, on dit entre amis, tu sais, j'aimerais bien disparaître une semaine, deux semaines, qu'on ne s'occupe plus de moi, qu'on m'oublie. Je veux qu'on m'oublie, etc. Qui de nous ne dit pas ça assez régulièrement? Et d'ailleurs, une anecdote, hein, quand j'ai dit à Anne-Marie Métellier que j'étais en train de travailler sur la disparition de soi, je reprenais mon souffle pour lui dire ce que j'entendais par là, et elle a éclaté de rire, elle a dit « Ah, quelle belle idée !» Voilà, j'ai pas du tout besoin de lui expliquer, elle avait parfaitement compris, et elle-même aussi était aussi parfois dans cette tentation. Donc vous voyez, même quand on a des métiers qui nous passionnent, le mien est passionnant évidemment, mais on a aussi envie parfois de lâcher prise et de s'effacer un petit moment. Donc voilà, nous éprouvons le désir de nous mettre dans une sorte de grève de notre existence, ou de prendre des vacances de soi, d'une certaine manière, pour le dire de manière plus paisible. Alors, je ne parlerai pas plus de la marche, mais je crois que le prodigieux engouement sociologique de la marche dans nos sociétés, hein, parce que la marche est devenu un phénomène sociologique absolument incroyable en l'espace d'une vingtaine d'années, est lié justement à cette forme de disparition de soi, mais tout à fait ludique, heureux. C'est-à-dire on peut marcher seul, on marche avec sa compagne, son compagnon, ses amis ou autres. Bon, on disparaît des radars d'une certaine manière, c'est-à-dire que nous devenons des anonymes sur les sentiers. Nous n'avons plus de compte à rendre à personne. Nous avons des échanges dans les fermes auberges ou dans les hôtels ou les gîtes, etc. On peut parler pendant des heures à quelqu'un dont on ignorera jusqu'à la fin de ses jours que c'est un député ou que c'est un ancien premier ministre de je ne sais où, ou l'écrivain dont on a plein de bouquins dans son sac à dos, mais qui n'a pas cru bon de dire qu'il en avait marre lui aussi, qu'il était parti se détendre un petit peu. On ignore, ou alors on parle avec un chômeur, on ne sait absolument pas avec qui l'on parle, sauf quand, évidemment, on peut toujours se dévoiler à un moment ou un autre. Mais bon, je pense que le bonheur des sentiers, c'est aussi ce bonheur de l'anonymat, cette espèce d'incroyable démocratie des rencontres qui fait qu'on parle avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, on partage des repas, etc. Mais vous voyez que c'est une manière de disparaître de soi, mais de la manière la plus heureuse qui soit. Donc c'est pas tellement de ça dont j'ai voulu parler dans disparaître de soi, parce que je l'ai fait de façon tranquille dans mes deux livres sur la marche. Là, j'avais plutôt envie d'aller du côté où il y a une souffrance, quand même, un malaise. Et donc, je me suis intéressé à ces personnes qui mènent des vies impersonnelles, on pourrait dire. Alors, nous sommes dans une société où il faut absolument devenir un individu. C'est le défi qui nous est lancé à tous. On n'est plus du tout comme dans les années 70, voire même les années 80, une société. Nous ne sommes plus dans un lien social où la culture a réponse à tout. Dans les années. Je parle un peu vite, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c'est pour essayer de combler l'espace. Donc, ce qui fait que des fois, je me perds dans mes explications et je m'en excuse. Pendant longtemps, donc, on a disposé dans nos sociétés de lignes d'orientation. On était immergé dans des cultures de classe, par exemple, dans des formes de solidarité également. C'est-à-dire, dans un village, tout le monde se connaissait. Dans un quartier, tout le monde se connaissait. Et puis, il y avait aussi une projection dans l'avenir. On se battait pour le socialisme, pour le communisme, pour la fin de l'injustice, la fin des inégalités sociales et autres. Donc, on était, d'une certaine manière, porté par le lien social. À partir du moment où l'individualisation du lien social a commencé à s'étendre de plus en plus, on peut dater de ça du milieu des années 80, début des années 90, nous avons davantage été des individus isolés, individus au sens fort du terme, au sens de Norbert Elias quand il décrit la société des individus. Et un individu, ça veut dire que nous avons chacun de nous à nous mettre au monde, à inventer les significations et les valeurs avec lesquelles nous allons vivre. À partir de ce moment-là, l'identité devient beaucoup plus difficile à construire. En d'autres termes, nous n'avons jamais été aussi libres. Nous pouvons décider de tout, puisqu'on n'est plus des héritiers, dans le sens où Bourdieu pouvait en parler dans les années 60-70. Il y a un héritage au sens économique, sans doute, mais plus du tout, en tous les cas, au sens culturel. Donc nous avons à nous mettre au monde, à nous inventer pour le meilleur ou pour le pire. Et bon nombre d'entre nous se sentent justement impuissants à décider d'eux-mêmes. Et ce sont des hommes ou des femmes qui ne disposent pas des ressources symboliques, des ressources de sens, pour pouvoir vivre pleinement leur liberté d'individu. Alors c'est ça que j'appelle l'impersonnalisation. On est dans une société où il faut s'hyper-personnaliser d'une certaine manière, société du look, de l'image, il faut en mettre plein la vue, il faut avoir son quart d'heure de célébrité, etc. Là, chez ces personnes, c'est absolument l'opposé. Elles veulent s'impersonnaliser, qu'on ne s'occupe pas d'elles. Elles veulent disparaître dans la grisaille des murs, devenir rien, d'une certaine manière. Alors j'avais comme ça trouvé une très très belle phrase de Michel Léris. Enfin, je ne vais pas vous la citer. Michel Léris a un style un peu particulier, mais en tous les cas, j'avais beaucoup aimé cette anecdote où Michel Léris, un jour dans le journal Le Monde, lit l'interview d'un très grand torero espagnol qui vient de prendre sa retraite. Et non, c'est une célébrité absolument légendaire en Espagne, et voilà qu'il va couper définitivement avec le monde de la reine. Et un journaliste espagnol donc demande à cet homme: mais qu'est-ce que vous allez faire? Et cet homme répond de façon fulgurante: j'apprendrai à n'être rien. Voilà. Et Michel Léris, l'ethnologue et l'écrivain qu'on connaît, donc, a été absolument fasciné par cette phrase. Je crois aussi d'ailleurs que Léris était assez hanté par le vieillissement et par le fait de perdre sa professionnalité, de se demander où allait l'amener le fait de vieillir et autres, puisque toute son œuvre est très à la première personne. C'est, depuis l'âge d'homme, il a écrit plein de bouquins qui sont des espèces de journaux. Bon, je ne vais pas vous faire la citation parce que je me suis rendu compte que c'était une phrase. Si on la lit pas tranquillement, on a du mal. Elle n'est pas faite pour l'oralité. Elle est faite vraiment pour l'écriture que l'oralité. J'ai décrit l'existence d'un certain nombre de personnes qui sont comme ça dans des existences impersonnelles. Alors je vais m'arrêter un instant pour vous rappeler l'un d'entre eux, qui est par contre très connu paradoxalement, mais qui a vécu toujours dans l'ombre, c'est le grand écrivain suisse Robert Walser, qui est l'auteur d'un livre assez légendaire pour les marcheurs, qui s'appelle « La promenade ». Mais c'est un livre incroyablement insolite dont on se demande comment quelqu'un a pu écrire un texte comme ça. Et donc Robert Walser est un homme qui a commencé à publier ses premiers livres en Suisse, en allemand, dans les années... C'était dans les années 20-30. Il était admiré par Franz Kafka, admiré par Walter Benjamin, qu'il considérait comme l'un des plus grands écrivains de son temps. Mais Robert Walser, la grande ambition de sa vie, il l'a dit, il l'a souvent écrit, c'était d'être un zéro tout rond. Il avait même curieusement fait des études pour devenir commis, pour devenir domestique, tout en continuant à publier des nouvelles, des romans, etc. Et puis un jour, je crois qu'il a un peu craqué, il s'est fait hospitaliser, et puis il a finalement trouvé que c'était l'hôpital psychiatrique était un lieu pour lui. C'était avant les psychotropes, et avant la chimiothérapie et tous ces trucs-là, évidemment, où les gens étaient simplement enfermés dans un coin et restaient tranquilles. Et donc il a passé quasiment toute sa vie à l'hôpital de Herisau, en Suisse, dans les Alpes, jusqu'à ce qu'un autre écrivain suisse qui s'appelle Karl Sieling vienne le visiter, qui apprend un jour avec stupeur que Robert Walser est toujours vivant, il est à l'hôpital psychiatrique. Donc, Sieling a foncé le voir et puis lui a dit... Ils se sont liés d'amitié et puis Sieling a demandé à Walser s'il voulait bien marcher avec lui. Et ça a donné un très très beau livre de marche qui s'appelle « En marchant avec Robert Walser » qui est publié chez Rivage Poche, où donc Sieling raconte ses conversations absolument passionnantes. On voit que Walser était profondément au courant de tout ce qui se passait à son époque. Mais ce qui moi m'a le plus bouleversé, c'est que quand le soir commence à tomber, ils ont marché toute la journée, ils sont allés dans une ferme, dans une auberge du coin, et puis le soir commence à tomber, et toujours Walser à un moment donné se tourne vers Sieling pour lui dire, vous savez, il est peut-être temps qu'on rentre, je ne voudrais pas me faire remarquer. Et voilà donc un gars qui a passé sa vie à trier des haricots, à fabriquer des sacs en papier, et qui est mort d'ailleurs dans la blancheur. C'est une histoire aussi extraordinaire. Dans l'une de ses nouvelles, il avait imaginé la mort d'un randonneur, d'un jeune homme qui est recouvert par la neige. Voilà. Et à la fin de sa vie, Robert Walser lui-même est mort d'une crise cardiaque un jour de neige lors d'une de ses marches, et ce sont des enfants qui ont retrouvé son cadavre des heures après, complètement recouvert par la neige, un peu comme une espèce de clin d'œil incroyable justement sur la blancheur, la disparition, l'infinie discrétion, ne pas brouiller l'ordre du monde, écrire des livres comme par inadvertance, même si ça... Ce sont des livres qui comptent parmi les grands livres du siècle. Mais voilà. Alors des exemples comme ça, vous en avez des tas. Vous avez Fernando Pessoa, hein, qui est le livre de l'intranquillité, aussi l'un des grands livres du siècle, écrit par un homme qui ne cesse de se décrire comme étant insignifiant, dérisoire, petit commis qui va faire son boulot et qui décrit les rues de Lisbonne, souvent dans la grisaille. C'est pas un Lisbonne éclatant, c'est un Lisbonne un peu triste, un peu amer, un peu mélancolique, disons. Pessoa va publier finalement pas énormément de choses. Pessoa en portugais ça veut dire personne. Hein. Là aussi, il y a parfois on est surpris par une sorte d'inconscient du langage, je sais pas, enfin quelque chose d'extraordinaire. Donc Pessoa avait de son vivant inventé plusieurs hétéronymes, pas des pseudonymes, hein, des hétéronymes, c'est-à-dire d'autres hommes à qui il prêtait une œuvre et une vie aussi. Hein. Donc on pouvait dire, voilà, ce poème, j'ai plus en tête le nom des hétéronymes, c'est un poème de un tel qui était marin, qui a bourlingué, etc. Ça, c'est le poème de un tel autre. Donc il avait inventé des histoires spécifiques à chacun de ces hétéronymes. Et quand il est mort, et 30 ans après, on a découvert une malle bourré de manuscrits absolument incroyables, et on a découvert qu'il avait inventé des tas d'autres hétéronymes et dont il n'avait jamais cru bon de publier, quoi. Et là-dedans, il y a des très 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 grands textes qui ont été publiés par la suite. Voilà, donc encore un homme qui a choisi une sorte de disparition de soi. Et il y en a d'autres. On pourrait presque parler de Pirandello, même s'il a eu le prix Nobel de littérature, si c'est l'un des, quand même, des écrivains les plus connus du XXe siècle. Mais Pirandello était hanté par le thème de la disparition. Hein. Pensez à son théâtre, pensez à des romans comme Feu, Mathias Pascal, un autre qui s'appelle 100 000, qui raconte aussi l'histoire. Feu, Mathias Pascal, donc un homme qui change, qui pense qu'il est mal dans sa peau et qui disparaît, qui change d'identité, et puis 100 et 1000, c'est encore une autre histoire du même genre, et puis il y a des nouvelles de lui, et puis son théâtre, ainsi personnages en quête d'auteur, ou d'autres, ou des... Bon. Mais Pirandello était un homme en grande souffrance, sa femme était folle, il se sentait un peu enfermé dans son personnage, hein, également dans son personnage d'écrivain, mondialement reconnu, etc., et le thème de la blancheur hante également profondément l'œuvre de Pirandello. Et donc dans le contemporain, c'est Paul Auster pour moi qui serait l'un des exemples les plus fulgurants de ça. Toute l'œuvre de Auster est centrée autour de ça. Alors regardez dans la littérature et le cinéma japonais, c'est aussi spectaculaire. Tous les livres de Haruki Murakami ou de Ryu Murakami, hein, sont deux manières de disparaître complètement différentes. Hein. Haruki, on est plutôt dans un univers imaginaire où tout d'un coup il y aurait, je sais pas, un escalier là, dans cette pièce, puis on monterait, puis on serait emporté dans une sorte d'univers parallèle incroyable. Ryu Murakami, c'est plutôt disparaître dans des sexualités extrêmes, dans des expériences radicales, meurtrières, mais auteur également fascinant. Ogawa aussi, qui est énormément traduit, c'est une femme qui vit en Allemagne, qui a écrit des nouvelles absolument sublimes, je trouve. Qui est hanté également. Ces personnages sont sans épaisseur d'une certaine manière, mais profondément bouleversants. Il y en aurait plein d'autres. Dans le cinéma japonais, ce sont les films de Kitano, par exemple, pas les films de Yakuza, où là, et encore, mais bon, les films de Yakuza restent quand même assez codés d'une certaine manière. Mais beaucoup des autres films de Kitano, qui sont parmi les plus bouleversants, sont complètement insolites. Hein. Pensez à Dolls, pensez à. Le rivage, le titre m'échappe. Bon. Enfin, en tous les cas, il y a plusieurs films de Kitano qui nous montrent des personnages. L'été de qui, un prénom japonais là aussi que je n'arrive plus à trouver. Bon, voilà, souvent les personnages de Kitano donc, viennent d'on ne sait où, on les suit pendant une heure et demie, on se demande ce qui va se passer. Et on est bouleversé d'un bout à l'autre, et puis à la fin on se demande ce qui va leur arriver, quoi. Mais ils sont souvent sans épaisseur biographique. Il y a ça dans les films de Kiyoshi Kurosawa, de Kore-eda. Pensez à un film comme Nobody Knows, qui est absolument sublime, qui montre l'existence de trois gamins à Tokyo, abandonnés par leurs parents et par leur mère, et qui vont survivre dans les interstices, l'un des plus beaux films que j'ai vu. Mais tous les autres films, la plupart des films de Kore-eda sont autour de ce thème de la disparition. Kawase, qui vient de sortir d'Hélice à Tokyo, que je n'ai pas encore vu, mais les films de Kawase, Naomi Kawase, sont aussi des films sur la disparition. Il faut dire que c'est aussi un thème très, très japonais, d'une certaine manière, puisque les Japonais parlent d'évaporation. Un personnage s'évapore. C'est leur manière de dire il a disparu, il est parti sans laisser d'adresse, qui est l'une des figures de la disparition de soi aussi. Hein, il est parti sans laisser d'adresse, et il existe un quartier à Tokyo où se réfugient tous les sans-abri et tous les évaporés, où ils peuvent donc personne n'a l'idée d'aller les rechercher là-bas. Ils peuvent se reconstruire et en tous les cas se reconstruire sans identité d'une certaine manière. Voilà, donc là, les évaporés du Japon, je pense à... Dans le cinéma plus européen ou américain, ce sont les films de Jim Jarmusch, c'était les films de Wim Wenders, les films de Werner Herzog, ou plein d'autres là, qui ne, Alain Tanner aussi, pas mal. Bon, voilà, c'est, pour moi, c'est un thème donc qui est très au cœur du cinéma. Mais vous voyez, d'un cinéma un peu exigeant. C'est pas un cinéma qui nous mène en bateau avec une musique fracassante pour nous dire qu'on doit. Là, il faut absolument qu'on soit ému parce que c'est voulu par le metteur en scène. Non, c'est des films exigeants, des livres exigeants. Et qui nous bouleversent, et qui sont toujours en tête des meilleures ventes. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Pourtant, ce n'est pas facile de lire Murakami, par exemple. Pas toujours facile de lire Paul Auster non plus. Et ils sont avec les auteurs ultra-classiques qui nous apprennent, qui nous confortent dans notre sentiment d'identité. Et voilà. Alors, je vais bientôt m'arrêter pour qu'on puisse échanger, mais un autre point qui m'a beaucoup intéressé également dans l'écriture de ce livre, et qui relève aussi de mon travail sur le monde de la santé, de la médecine, etc., c'est Alzheimer, c'est la maladie de Alzheimer. Parce que depuis bien longtemps, je pense que la maladie de Alzheimer ou différentes formes de démence sénile ne sont pas automatiquement données par une détérioration biologique. Mais je pense que dans énormément de cas, il y a une détérioration du sens de la vie en amont. Et une détérioration du sens de la vie qui amène à une sorte de dégradation biologique au fil du temps. Mais au départ, je vois plus volontiers un lâcher-prise d'hommes ou de femmes qui ont tout donné, qui ont épuisé absolument leurs ressources de vivre, qui continuent à être aimés, qui continuaient éventuellement, je ne sais pas si on peut dire qu'elles continuaient à aimer, parce que dans ce cas-là, il y aura encore un sens à leur vie, mais en tous les cas, elles étaient encore immergées à l'intérieur d'un lien social, familial, etc., mais elles n'en peuvent plus. C'est d'ailleurs, à mon avis, pas pour rien que ce sont souvent des femmes qui sont Alzheimer, qui ont donc élevé leurs enfants, qui ont travaillé, qui ont été toujours sur la brèche, qui ont continué à l'être en tant que grand-mère, etc. Et puis, il y a un moment où, sans doute, un certain nombre d'entre elles n'en peuvent plus. Mais ça ne se verbalise pas comme ça. On n'est pas du tout dans une vision cartésienne. Évidemment, dans ce cas-là, ce que je dirais n'a aucun sens. Mais j'ai essayé, dans le livre, de construire une notion d'identité qui ouvre davantage et qui intègre... peut-être l'héritage de Freud, de le fait que chacun de nous est divisé par l'inconscient, il y a une part de nous-mêmes qui nous échappe, et on peut très bien parfois choisir la maladie, choisir la douleur chronique, choisir l'échec, etc. Ça fait partie de la matière première des psychanalystes depuis Freud, d'une certaine manière. Et je pense qu'Alzheimer relève de ces mêmes logiques, d'un lâcher-prise à un moment donné, de gens qui sentent qu'ils n'ont plus leur place à l'intérieur du monde... et qui s'efface tout doucement, tout doucement, tout doucement, voilà. Et une autre de mes idées à ce propos-là aussi, c'est que peut-être ce sont des hommes ou des femmes qui ont l'intuition que leur mort brutale serait une tragédie pour leurs proches, voilà. Et donc, un peu comme si elles préparaient le terrain, d'une certaine manière, de leur disparition. Elles s'effacent tout doucement, et puis un jour, il n'y a plus personne. Mais finalement, pendant des années, nous aurons vu ces personnes tout doucement s'effacer. Et donc, nous serons préparés à leur mort. On pourrait dire que quand la mort arrive, c'était déjà fait. Vous voyez ? Et donc, c'est plus facile de perdre son père, de perdre sa mère, de perdre quelqu'un qu'on aime dans ce contexte-là, que de la perdre de manière fracassante comme ça. On sait d'ailleurs que ce sont dans ce cas-là des deuils très, très douloureux, très difficiles à faire, qui ouvrent des véritables abîmes. Et là, donc, on aurait une sorte d'accompagnement, si je puis dire. On ne peut pas prouver, évidemment, ce genre de choses que je suis en train de vous dire. On est plutôt là dans l'intuition et... Et chacun de nous doit réfléchir par rapport à sa propre histoire et par rapport aux personnes qu'on a pu connaître les uns et les autres dans ce genre d'effacement progressif. Mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, donc d'un sens qui se dégrade et qui amène progressivement à la dégradation également de la biologie, donc de ce qu'on appelle le cerveau dans nos sociétés. Voilà. Et vous voyez aussi que quand on développe une idée comme ça, il y a une dimension éthique. Parce que si on dit, son cerveau est complètement détruit, on peut lui dire n'importe quoi, de toute façon, il ne comprend pas. C'est sûr que si on a une vision purement biologique de l'humain, on n'a plus qu'à se croiser les bras et à filer les molécules aux gens. On n'a plus besoin de s'engager en tant que soignant, en tant que médecin, en tant que psy ou en tant que membre de la famille. En revanche, si on considère que quelque part, il y a une identité, mais c'est une identité qui s'est éloignée d'une certaine manière, alors il y a encore une nécessité de présence, de soins, d'amour, d'amitié, etc. Donc mon approche, vous voyez, est à la fois vise à défendre absolument l'accompagnement chez ces personnes dites démentes séniles ou dites Alzheimer, alors que je pense que c'est beaucoup plus compliqué qu'une simple altération biologique. Voilà, et puis donc l'une des autres figures, peut-être que je m'arrêterai là-dessus pour qu'on puisse échanger plus tranquillement, une autre figure de la disparition de soi, c'est évidemment ces personnes qui partent sans laisser d'adresse, dont j'ai parlé tout à l'heure brièvement à travers les évaporés du Japon, mais c'est un thème qu'on rencontre de plus en plus au début du XXe siècle. Alors je pense que, j'en parle quand même un peu dans le livre, je pense que au moment des grandes découvertes, au moment des décolonisations, etc., énormément d'hommes ou de femmes ont disparu justement et sont allés se reconstruire ailleurs. Donc l'un des thèmes qui m'était cher d'ailleurs, c'était les trappeurs, cette fascination du wilderness qui a embarqué des milliers de Français, d'Italiens, etc., dans un ouest qui n'était pas encore la frontière, mais qui était encore une zone complètement sauvage au sens contemporain, je veux dire, qui n'était pas peuplée par la civilisation, et ce que Mark Twain appelait la civilisation en même temps. Donc c'était l'univers sauvage qui fascine les Américains, c'est le wilderness où vivaient les populations indiennes, et les trappeurs étaient justement des hommes qui s'enfonçaient dans ces terres absolument inconnues des blancs de l'époque et qui vivaient avec les Indiens, qui chassaient toute l'année et puis qui vivaient dans une solitude qui épousaient parfois des Indiennes et qui étaient des transfuges en quelque sorte avant la conquête de l'Ouest. Mais c'était un lieu absolument, évidemment, un lieu magnifique pour disparaître. Donc ça, j'y ai consacré quelques pages. Mais on peut dire que sur un plan sociologique, le moment où commence à apparaître vraiment d'un point de vue social, quoi, d'un point de vue politique, cette question que des gens disparaissent, on ne sait pas où ils passent, c'est dans le courant du 19e, vers le milieu du 19e, il y a eu les fous du voyage, par exemple, hein, ces hommes auxquels... je crois que c'est... Je lis tellement de choses que des fois je perds les noms. Mais il y a un bouquin très intéressant qui s'appelle Les fous du voyage par un collègue parisien du CNRS qui étudie la biographie de ces hommes qui partaient, c'était plutôt des hommes, hein, qui partaient, qui prenaient un train, qui oubliaient complètement qui ils étaient et ils refaisaient leur vie ailleurs, dans une autre région, dans un autre pays. Et puis quelques années après, on les reconnaissait et donc ils se retrouvaient avec une autre identité. Ou alors ils retrouvaient tout d'un coup la mémoire, ils se demandaient ce qu'ils faisaient là et ils rentraient chez eux. Et donc il y a eu une épidémie à la fin du 19e de ces fous du voyage qui disparaissaient à leur manière. Mais plus couramment, à partir de cette époque-là, on voit des hommes ou des femmes qui disparaissent pour se reconstruire ailleurs. Donc là, c'est davantage la figure de disparaître sans laisser d'adresse. Des gens qui avaient une famille, qui avaient un boulot, et qui soudain ne sont plus là. Et on se demande s'ils sont vivants, s'ils sont morts. Voilà, et parfois, on les retrouve ailleurs. Alors, je vous l'ai dit, c'est un thème qui a fasciné Pirandello, qui en a fait le thème de plusieurs de ses romans. Georges Simenon, aussi, a écrit plusieurs romans qui mettent en... La fuite de Monsieur Monde, notamment, hein, qui raconte la disparition d'un industriel. Il a pourtant tout pour être heureux, il a énormément d'argent. Mais il est malheureux finalement, il ne s'épanouit pas du tout dans son boulot, il est déçu par son fils qu'il trouve obsédé par l'argent, son épouse qui ne s'intéresse pas trop à lui. Et bon, il a l'impression qu'il a foutu sa vie en l'air et il prend un train, le premier train qui passe dans la gare à la sortie de son bureau, et il se retrouve à Marseille et puis il va vivre comme ça dans les rues, etc. Et Simenon a écrit plusieurs livres comme ça, et dans les livres aussi qu'il a écrit sur les colonies, colonies, ce qu'on appelait à l'époque les colonies, les touristes de banane par exemple, qui est un livre assez saisissant sur comment le monde du Pacifique par exemple pouvait attirer tous les paumés, ou le monde des colonies pouvait attirer énormément de paumés qui allaient se reconstruire ailleurs, mais qui généralement mouraient très vite parce qu'ils étaient... ils n'étaient pas à la hauteur pour survivre dans les colonies. Donc dans Touristes de banane, Georges Simenon parle de tout un tas de ces gens qui se sont écrasés contre l'altérité, qui n'étaient plus des blancs parce qu'ils étaient trop méprisables, ils étaient dans l'alcoolisation, dans le mépris de soi, etc. Donc ils étaient rejetés par les blancs, rejetés par les populations locales également. Donc ils finissaient clochards sous le soleil, comme dans la chanson d'Aznavour, mais sans que ça leur ait donné vraiment le goût de vivre. Mais c'était souvent des gens qui avaient tout abandonné derrière eux. Voilà. Donc ce thème est... Vous savez d'ailleurs qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui disparaissent chaque année dans des grandes villes comme Paris, comme Londres, etc. Ce ne sont pas des gens qui sont tués ou qui... pas des gens qui sont assassinés. Ce sont des gens qui, quelque part, ont essayé de refaire leur vie ailleurs. Voilà. Figure quand même assez fascinante dans un monde où l'état civil est devenu tellement obsédant. On ne peut plus faire un mouvement sans devoir montrer sa carte d'identité, attester de qu'on est bien la personne qu'on est. Voilà. Et dans ce contexte-là, donc je crois qu'on est de plus en plus à nous sentir empêtrés dans un personnage que nous sommes obligés de tenir en permanence à l'intérieur du lien social. Et les autres manières de disparaître douloureusement, c'est la dépression, c'est le burn-out, c'est la recherche de la fatigue. C'est toute une série de symptômes comme ça. L'addiction au sommeil, par exemple, chez des adolescents qui ont énormément de mal à se réveiller. Mais il y a aussi des hommes ou des femmes qui passeraient leur vie entière à dormir. Donc une manière de s'effacer aussi paisiblement. La recherche de la fatigue, la recherche délibérée de la fatigue, hein, s'épuiser pour ne plus penser. Voilà, on a comme ça, on dispose d'innombrables manières de nous défaire, ou plutôt de nous alléger des contraintes de l'identité, des contraintes de notre identité, pour reprendre notre souffle, pour regarder parfois l'agitation du monde à distance, pour y revenir. On pourrait parler d'ailleurs aussi de tous les stages de silence, les stages zen, les stages de bouddhisme, les stages de méditation qui connaissent un succès incroyable dans nos sociétés. On est saturé par le bruit, par la nécessité de toujours rendre gorge de notre personne, de notre responsabilité. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc on aspire au silence aussi, on aspire à la... au fait de pouvoir reprendre son souffle. Voilà. Je crois que j'ai dit à peu près, enfin j'ai résumé vraiment à grands pas mon thème. Si vous voulez, on peut dialoguer maintenant ensemble, tranquillement.